Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire Fun. Nous allons vous parler aujourd'hui d'une phase sanglante de la Révolution française, la Terreur. Pour en parler, nous accueillons deux spécialistes, Athéna et Miss Prof. Miss Prof, comment la Terreur s'est-elle installée dans la Révolution française ?
Oui, bonjour. Alors, une première chose qu'il est nécessaire de préciser, c'est qu'en fait, il y a plusieurs phases dans la Terreur. Donc, une première Terreur que l'on peut situer en 1792 et ensuite une seconde Terreur qui s'étale de septembre 1793 à juillet 1794. Donc, concernant la première Terreur, du 10 août au 20 septembre 1792, après la chute des Tuileries et la formation d'un conseil exécutif provisoire de 6 membres, l'Assemblée législative déconsidérée doit s'incliner devant la Commune insurrectionnelle de Paris, qui, inspirée par Robespierre, surveille les autres autorités. La plupart des mesures prises par la législative le sont sous la pression de la Commune, suspension du roi, autorisation donnée aux municipalités d'opérer des visites domiciliaires et de procéder aux arrestations, création d'un tribunal extraordinaire le 17 août, mais aussi bannissement des prêtres réfractaires, suppression des ordres enseignants et hospitaliers. À Paris, environ 3000 suspects sont emprisonnés. La peur du complot aristocratique, l'inquiétude grandissante devant l'invasion prussienne et l'exacerbation des passions populaires provoquent alors les massacres de septembre. Cette première terreur, qui coïncide avec l'époque des élections à la Convention, prendra fin avec la victoire de Valmy. Ensuite, on entre dans une deuxième phase de la terreur qui commence le 5 septembre 1793 et se prolonge jusqu'au 28 juillet 1794. Après la chute des Girondins sous la domination des Montagnards, la terreur vise à assurer la défense de la nation contre les ennemis de l'extérieur avec la première coalition et les ennemis de l'intérieur avec la guerre de Vendée et les insurrections fédéralistes et royalistes. La terreur se développe par étapes depuis la création du tribunal révolutionnaire le 10 mars 1793 jusqu'à la loi du 22 Prairial en 2 selon le calendrier révolutionnaire, c'est-à-dire pour nous le 10 juin 1794 qui en aggrava le caractère. Créés le 21 mars 1793, les comités de surveillance, chargés sous le contrôle du comité de sûreté générale de l'arrestation des suspects, voient leur pouvoir accru après le vote de la loi des suspects le 17 septembre 1793. Les suspects sont traqués, les condamnations se multiplient, de nombreux Girondins sont exécutés. Outre le tribunal révolutionnaire nommé par la Convention, des tribunaux révolutionnaires fonctionnent aussi en province, il est important de le dire aussi. Avec Robespierre au début de 1794, la terreur étendue à toute la France par les représentants en mission s'accompagne de strictes mesures de contrôle économique et d'une déchristianisation générale. Les biens séquestrés des suspects doivent être distribués aux indigents, c'est-à-dire aux pauvres. On entre ensuite dans une phase qu'on appellera la Grande Terreur. À compter d'avril 1794, la terreur entre dans une nouvelle phase donc. Le traité du 27 Germinal en 2, c'est-à-dire le 16 avril 1794, dépossède les tribunaux révolutionnaires de province de leur pouvoir au profit de celui de Paris. La répression est encore accentuée par la loi du 22 Prairial en 2, le 10 juin 1794, qui supprime la défense et l'interrogatoire préalable des accusés et ne laisse donc au tribunal que le choix entre l'acquittement et la mort.
Merci pour ces précisions, Miss Prof. Athéna, quelles ont été les conséquences de la terreur et comment a-t-elle pris fin ?
Les conséquences sont qu'entre juillet 1792 et juillet 1794, il y a eu 100 à 300 000 arrestations et 35 à 40 000 morts durant cette phase au plus fort de la terreur. Plus de 50 guillotines fonctionnent alors dans tout le pays. 52% des condamnations capitales sont prononcées dans l'Ouest et 19% dans le Sud-Est, c'est-à-dire dans les régions de guerre civile. 16% à Paris. Il semble que les faits idéologiques aient motivé 19% des condamnations, les faits économiques 1% seulement, mais de nombreux emprisonnements. 8 condamnés sur 10 sont des membres du tiers d'État, 3 sur 10 sont des sans-culottes, 1 sur 10 sont des nobles, contrairement à une imagerie largement répandue.
Oui, alors on peut peut-être aussi préciser qu'il y a eu d'autres noms hein, ensuite pour la terreur qui a été utilisée dans d'autres circonstances. Après Thermidor, la terreur est appliquée aux anciens robespierristes et réapparaît périodiquement, y compris dans la législation d'exception jusqu'en 1799, appliquée aux royalistes et aux jacobins parfois simultanément. Mais elle a perdu son caractère populaire. Puis l'usage s'instaure d'appeler terreur toute répression exceptionnelle, y compris les terreurs contre-révolutionnaires ou terreurs blanches.
Super, nous avons appris plein de choses aujourd'hui grâce à vous. À une prochaine fois sur Histoire Fun.
Bisous de nous. Et bon anniversaire à Mimi.